plaisir des Utopies, l'émission radio de la plateforme polyamour.be, réalisée et présentée par Polyphile. C'est ici que l'idée polyamoureuse nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Bonjour à tous, aujourd'hui pas mal de choses à vous communiquer. Tout d'abord le 23 octobre, Bruxelles Lake nous invite au Festival des Libertés, un moment important où on pourra ensemble débattre autour d'un sujet qui nous concerne, qui nous enchante aussi, puisque c'est les multiples conjugaisons conjugales. On en reparle un peu plus dans l'émission. Aujourd'hui, je suis aussi en compagnie de Jean, qui nous rejoint, qui a un beau petit parcours polyamoureux, qui est lui aussi inscrit dans le mouvement polyamoureux à sa façon. Il va nous un peu plus nous en parler, déjà une belle expérience, et il aime les choses assez claires dans ses relations. Nous avons aussi une invitée particulière aujourd'hui, c'est Christine Lénart de Questions à la Une, et elle va participer à cette émission, elle va interroger Jean aussi, ça va être une petite discussion à trois, sur qui on est, c'est qui notre mouvement, et cela pour le compte de l'émission Questions à la Une, RTBF Télévision. Il s'intéresse à nous, et particulièrement aussi à l'idée de polygamie, et donc polygamie, polyamour, c'est un peu proche, même si évidemment on va tenter au cours de cette émission de nuancer, évidemment, de clarifier un petit peu toutes ces notions. Jean, bonjour.
Bonjour, Phil.
D'emblée, voilà, tu dis, au niveau de tes relations amoureuses, tu utilises très peu le mot amour, en fin de compte.
Oui, c'est toujours une question de vocabulaire. Il est toujours important, dans une relation, comme dans d'autres situations, de bien communiquer et de choisir les termes les plus adéquats. Dans une relation aussi, il faut faire attention de ne pas blesser l'autre, dans le présent, mais aussi éventuellement dans l'avenir. Le terme amour, je ne l'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle représente, pour beaucoup de gens, énormément de choses. Mais aussi des dogmes que je ne partage pas du tout. Des mythes aussi, la relation unique, exclusive, éternelle. Donc, si je rencontre une femme, il y a différentes choses qui vont m'attirer chez elle, mais avant tout, ce que je vois de l'extérieur. Et donc, je peux désirer cette femme. Donc, il est important de lui dire « je te désire, j'ai envie de toi », mais lui dire « je t'aime », ça peut représenter quelque chose pour elle auquel je ne pense pas du tout. Donc, je préfère éviter ce type de terme et rester dans le concret pur et dur.
Oui, c'est ce que dit aussi un peu François Saint-Père dans un de ses livres, notamment quand on lui dit « je t'aime », bon, elle dit « on va attendre 3 ans, puis on en reparle ».
Bien sûr, effectivement, parce qu'on va passer probablement, la plupart des relations commencent par un coup de foudre, et ce coup de foudre dure généralement, en moyenne en tout cas, 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Après, c'est une autre
période. On parle des hormones à ce moment-là, je crois.
C'est un problème hormonal, bien entendu, mais c'est un peu normal. Il y a aussi le problème de la curiosité, de la nouveauté. Même en dehors des hormones, il y a aussi toute cette découverte, tout ce temps de découverte, le temps de séduction aussi.
Et donc, toi, tu es assez radical dans ce que tu dis, et en même temps, je sens beaucoup d'honnêteté et d'envie, de partage, de respect.
Oui, bien sûr, c'est aussi dans cette optique-là. C'est pour ça que j'explique que je préfère la version néerlandaise qui traduit d'une manière littérale, dit « je tiens à toi », parce qu'effectivement, c'est ce que je peux dire à une femme. J'ai envie qu'on reste amis, j'ai envie qu'on reste amants, j'ai envie que tu restes dans ma vie. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'elle conçoit dans le terme amoureux. Elle en veut peut-être, elle veut peut-être autre chose encore.
Aujourd'hui, on accueille aussi la RTBF qui vient toquer à notre porte. C'est vrai qu'en 2010 et déjà en 2009, on a été assez souvent contactés par des télévisions françaises, parfois la radio. On a l'impression, il y a aussi eu des articles dans la presse, au Nouvel Observateur, des choses comme ça. Il y a une envie, on sent en tout cas, j'ai cette impression, je ne sais pas si c'est pour toi la même chose Jean, mais qu'il y a du monde extérieur, on vient frapper à notre porte et il y a des questions qui se posent.
Oui, des films qui sortent aussi sur le thème ou des termes très proches.
Le mouvement existe depuis quand ici en Belgique ? Comme beaucoup de choses aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ouvrir un site, acheter un nom de domaine, ça m'a l'air d'être un premier pas. Avant, on allait au Moniteur belge créer une asso où on voulait jouer à la pétanque, et puis on faisait les statuts. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se passe un peu autrement. Il y a Facebook, il y a les sites. Et l'idée pour moi, c'était de proposer tout de suite du contenu et qui a tout de suite fédéré. Donc c'était l'émission radio ici précisément, mais d'abord pendant 6 mois elle n'était pas sur Radio Campus, et puis il y a eu quand même l'envie d'aller vers une qualité d'écoute et prendre le temps dans un respect de la parole polyamoureuse, d'une parole un peu en dehors du système monogame, et donc ça s'est fédéré un peu comme ça, et on a assez vite créé des moments de rencontre dans une fois par mois à peu près. Oui.
Il y a beaucoup de membres ?
Bon, ben, si je regarde le site, c'est 100 de membres. Et en même temps, dans les rencontres, que on appelle ça des polycafés, c'est convivial, c'est échanger, c'est boire un verre. Souvent à Bruxelles, on en a parfois fait à Namur aussi. C'est une envie d'être compris, d'accueillir l'autre dans une différence. Et là, on est entre 20 et 40, ça dépend un petit peu. Et alors, on tente maintenant d'amener aussi l'idée de faire des petits débats, des choses comme ça, oui.
Alors pourquoi avoir créé un mouvement autour de cette thématique du polyamour ?
De manière tout à fait personnelle, j'ai eu dans mon parcours de vie un incident précis qui était donc comment gérer une vie de couple qui dure. Hein. Donc je me suis plutôt inscrit dans un parcours monogame. Et petit à petit, il y a eu une envie de faire un peu autrement. Et je pense que c'est en relation avec une adolescence où j'étais déjà, je pense, dans une alternative de pensée. Et que je retrouve aujourd'hui dans le mouvement polyamoureux des gens qui s'intéressent à la permaculture, à la décroissance, à faire du vélo, à ne pas regarder la pub à la télé. Enfin voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cohérence. C'est un petit peu osé, et puis on a senti très vite. Moi, c'est aussi une émission de Gabriel Stefanski, Parler d'amour, où François Saint-Père était invité déjà 4-5 ans d'ici, pour un livre qui était Aimer plusieurs hommes, qui est un petit peu maintenant. Petite Bible pour nous. Toi, tu l'as lu, je crois, Jean.
Oui.
Je pense que c'est un livre intéressant parce qu'il part d'une femme qui ose se mettre en avant dans les médias. Moi, je suis un homme, je le dis, toi, tu es un homme aussi aujourd'hui, on le dit. Mais j'ai l'impression que le mouvement polyamoureux est aussi hérité d'un certain féminisme. Si je lis Michel Onfray, aujourd'hui, en 10 points, il décrit c'est quoi être un féministe. Et il se sent lui-même aussi dans cette dynamique. Donc je crois que c'est aussi oser des micro-résistances, oser une alternative.
Alors, comment on devient polyamoureux ? Ça se décrète comme ça du jour au lendemain ?
Je n'ai jamais vraiment cru à la polygamie, mais le problème, à la monogamie plutôt. Mais le problème, c'est que l'on vit dans un contexte social donné. Et que, bon, les aventures des rencontres au départ, pour avoir de multiples relations, il faut déjà en avoir une. Et puis, ce n'est que par la suite qu'on peut se dire, tiens, ce n'est pas exactement comme ça que je veux vivre. Il y a des limites à cette unique relation. Et parce que je rencontre d'autres gens qui m'interpelle également et avec qui j'aimerais avoir une relation, pas nécessairement non platonique, mais une relation malgré tout, que l'on puisse se voir. Alors, depuis, j'ai même beaucoup, puisque j'ai quand même un âge un peu avancé maintenant, donc j'ai vécu différents schémas de relations multiples.
Vous êtes un peu libertin, au fond.
Libertin, mais dans le sens premier du terme. En ce sens, liberté de penser ou libre penseur. On est dans le cadre de l'ULB ici. Je m'autorise des relations multiples.
Mais est-ce que ce sont des relations amoureuses ou purement sexuelles ?
Amoureuses. Elles peuvent être au départ, comme on évoquait tout à l'heure, ce qu'on sent d'abord, c'est l'attirance vis-à-vis d'une personne, bien souvent. Hein. Il y a chaque relation est différente, chaque femme est différente, chaque homme est différent. Donc, à un moment donné, on va se retrouver dans une relation. J'ai un exemple bien précis. J'étais ici à l'ULB dans un cours de formation continue. Et on a été invité par un professeur à faire un séminaire de dynamique de groupe. Et une femme avec qui j'ai fait du covoiturage, pendant ce séminaire qui durait 3 jours en site, m'avouer d'une manière un peu particulière qu'elle était dans un désir vers moi. Moi, à ce moment-là, j'avais une relation, elle aussi, et on a échangé pas mal de mots, et finalement, on a décidé de se voir, et nous avons fait l'amour, mais on est resté ensemble pendant 40 ans, enfin, ensemble, en relation, on s'entend, hein, pas une vie commune.
Et vos conjoints respectifs le savaient et...
Les conjoints respectifs ne le savaient pas nécessairement au départ.
C'est de l'adultère, simplement, ça.
Si l'on veut, mais de nouveau, on en revient au contexte. Hein. On en parlait tout à l'heure un peu avant, avec Phil avant l'émission. Il ne faut pas non plus oublier d'où on vient. Maintenant, si vous voulez parler de sexualité, si vous parlez de relations, vous allez dans une librairie, vous avez des rayons entiers parlant de ce thème. D'accord. Dans les années 60, quand j'arrive comme adulte ou préadulte, si vous trouvez 4 ou 5 bouquins parlant de ce thème, vous êtes heureux. Donc c'est un contexte totalement différent. Donc il faut pouvoir trouver les mots aussi pour s'expliquer et faire admettre à une famille. Moi, j'ai épousé mon ex à l'époque justement pour des problèmes de famille.
qu'est-ce qui différencie les polyamoureux des gens qui ont des amants ou des maîtresses, finalement?
Oui, mais ce sont des termes un peu usés, donc au niveau des médias, on sent que c'est intéressant de mettre dans des cases, sans doute que ça peut rassurer des gens. Mais nous, on est un peu au-delà de ça, et à force d'en parler entre nous, on ne se rend plus compte, en fait. Oui, alors il y a l'amant qui a son rôle, qui a sa fonction, hein, dans l'héritage des pièces de théâtre bourgeoises où on le cachait dans le placard. Je pense qu'on n'est plus trop là. Moi, si j'observe une certaine jeunesse aujourd'hui, et même, je vais dire, en fait, si on observe des familles qui se détruisent parce que quelqu'un a eu une relation extra-conjugale, et la semaine d'après, on va voir le notaire, et la semaine d'après, on divorce, et on fait une semaine sur deux avec les enfants. Je trouve que c'est prendre un grand risque de confort et d'éducationnel. Même moi aussi, j'ai des enfants, je suis attentif. Est-ce que c'est pour ça que ma vie doit s'inscrire dans un modèle que l'on m'impose quelque part et qui est pour moi héritier de manière assez cohérente entre, pour parler de manière assez structurée, donc le capitalisme, le monothéisme, le patriarcat, voilà. Pour nous, c'est la colonne vertébrale.
Vous pensez que la monogamie rend beaucoup de gens malheureux?
C'est-à-dire que je suis un peu nostalgique. Oui. Moi, j'aime bien Jean Marcal, par exemple, qui est un historien qui a écrit beaucoup de livres sur les Celtes, peut-être par nostalgie, mais je trouve que ce sont aussi nos racines. Et quand on fouille un peu dans ses bouquins, notamment La femme celte, qui est un livre assez extraordinaire, on se rend compte qu'à l'époque, le mariage était beaucoup moins sacralisé et qu'une femme pouvait divorcer et quitter son mari après une année, retrouver ses biens. Et c'était plus, on va dire, des rencontres qui s'associaient pour trouver des avantages d'entreprise. Donc à l'époque, c'était peut-être cultiver un bout de terre, c'était peut-être s'organiser en société. Et je crois que le message chrétien est quand même venu un petit peu sacraliser avec tout ce qui suit derrière.
La différence entre l'adultère ou vraiment la rupture, je vais dire, d'un contrat, parce que quelque part, derrière le mythe de la relation unique, exclusive, éternelle, il y a le problème du point de départ. Si j'aborde une femme, je ne lui dis pas « c'est pour la vie ». Je lui dis « bon, je vis avec d'autres femmes, mais tu me plais, que faisons-nous ?» Mais elle sait au départ dans quel contexte elle va, elle, entrer. Donc, bien souvent, on me dit « oui, mais enfin, tu trompes, etc. » Non, minute, je ne trompe personne. Tromper n'est valable qu'à partir du moment où je dis à quelqu'un « c'est toi et uniquement toi et pour la vie ».
Avec vous, les choses sont claires dès le départ.
Ah, bien sûr. C'est justement la différence qui est essentielle à mon sens. Mais la difficulté que quelqu'un a passé du système monogame au système multiple, c'est justement parce que bien souvent, ne sachant pas exactement ce que va être une relation, il s'engage en pensant de bonne foi que c'est unique et éternel et exclusif.
C'est utopique, ça, selon
c'est,
vous?
Pour moi, bien souvent utopique. On peut aussi citer la référence d'autres écrivains, psychologues, qui ont écrit par exemple un bouquin « Qui sont ces couples heureux ?» Bon, parfait, mais ils donnent a posteriori, je vais dire, ce qui fait que certaines personnes restent ensemble sans être malheureux, mais on s'aperçoit que statistiquement parlant, c'est un très petit nombre. Et on ne dit pas non plus dans le livre que des gens qui vivent en des relations multiples ne sont pas aussi heureux que ceux qui sont dans une relation unique. Pourquoi pas? C'est simplement un angle de vue, et de nouveau qui devrait être au départ, de ce type de relation. Et à ce moment-là, tout est bien plus clair.
Et là, en ce moment, vous êtes dans une relation multiple, vous?
J'ai des relations multiples, oui. Mais de nouveau, chaque relation étant différente, il y en a qui sont, où je vois des femmes que je vois 3-4 fois par semaine, d'autres que je vais voir 2 fois par mois, voire 2 fois par an. Ça a peu d'importance.
Et toutes sont au courant?
Et toutes sont au courant.
Et est-ce que vous autorisez qu'elles aussi aient des relations,
oui,
avec d'autres
ça,
hommes?
Oui, ça c'est aussi un principe qui, à mon sens, est caractéristique de relations multiples. c'est le principe de réciprocité. On citait le féminisme tout à l'heure. C'est aussi, moi, quelque part, j'ai souvent l'habitude de dire « je suis féministe ». Parce qu'effectivement, si je me permets des choses, ça doit être réciproque, ou sinon ce n'est pas valable.
Est-ce que c'est viable ? Il n'y a pas de jalousie entre vous ?
Bien sûr qu'il peut y avoir de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment au départ qui est de la frustration, bien souvent. Mais très vite, je sors de cette jalousie. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en face de moi est avant tout une personne libre. Personne n'appartient à personne. Ça me semble évident. Ce sont des problèmes de prémisse, hein. À partir du moment où vous avez intégré cela, je ne dis pas que c'est nécessairement facile à vivre. Quelqu'un qui vous dit, écoute, désolé, mais à partir d'aujourd'hui, on ne se voit plus parce que je préfère un tel, c'est pas toujours évident à accepter, bien sûr, mais ça passe plus facilement que si on est dans cette croyance de relation exclusive.
Et parmi toutes ces relations que vous avez quand même bien une favorite ?
Pas nécessairement de favorite, non. Il y a effectivement des femmes avec qui je me sens mieux, qui ont peut-être plus besoin de moi que d'autres. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir une certaine priorité de fait qui va s'installer. Mais ça évolue de nouveau. Chaque relation elle-même évolue.
Donc, Et comment vit votre entourage, comment voit votre entourage, votre façon de vivre comme ça, votre vie amoureuse ?
Il y en a qui comprennent difficilement, d'autres qui comprennent très bien, et d'autres qui sont justement dans le questionnement, soit là qui se disent, oui, au fond, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, de nouveau, on citait des films tout à l'heure, il y a des films sur le sujet. Il y en a en ce moment à l'écran, et bon, ça interpelle. Et donc les gens se disent, oui, mais au fond, pourquoi pas finalement ? Et justement, on sort de l'adultère. Quand on parle de l'adultère, pourquoi y a-t-il des adultères ? Parce que bien souvent, les gens, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est Labourie, disent, les gens se créent eux-mêmes leur cage. Et une fois qu'ils sont dans leur cage, pas de chance, quoi. Ils sont enfermés. Et à un moment donné, ils voudraient bien retrouver une certaine liberté. Et les relations multiples permettent des temps de respiration. Mais ça demande aussi, ce n'est pas pour ça, comme je le dis parfois à certaines de mes compagnes, qu'on n'a pas envie de se retrouver seul avec soi. Des moments de respiration aussi. C'est très bien d'être avec l'autre, mais tout le temps avec l'autre, ce n'est peut-être pas l'idéal non plus. Thank you.
polyphile, dire autour de soi « je suis polyamoureux », c'est une question qui est encore très taboue à l'heure actuelle.
Je dirais oui et non. J'ai reçu un ami polyamoureux qui venait de Norvège, donc j'étais assez étonné. Je vois qu'en Allemagne, il y a des rencontres plusieurs jours. Je suis proche aussi d'amis parisiens qui sont dans ce mouvement. Dans ma vie, dans ce que je mets en place, de moins en moins. Peut-être que je suis un peu privilégié parce que j'évolue aussi dans un milieu plus artistique et que peut-être dans certains milieux plus traditionnels, ça reste tabou et ça restera tabou. Et donc nous, on doit faire avec ça. Et je crois qu'au-delà de ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui trouvent beaucoup de bonheur à deux. Et ça, je tiens à le dire aussi. Donc on n'est pas en train de dire... C'est nous qui avons inventé quelque chose qu'on n'a d'ailleurs pas du tout inventé, puisque si on lit le livre Amour de Jacques Attali, on se rend compte qu'à d'autres endroits du monde, à d'autres régions, il y a des sociétés qui ont tenté autre chose. Voilà, c'est vraiment élargir l'esprit et se dire qu'on a peut-être un peu notre place, comme le milieu homosexuel aussi s'est revendiqué à un moment donné pour dire on existe. Ça va simplement un petit peu dans ce sens-là.
C'est ça le but de ce mouvement, c'est avoir une reconnaissance sociale.
Je crois que ça vient avec simplement l'envie d'exister comme on est. Se sentir différent, ce n'est pas toujours si simple. Voilà, moi, c'est un peu ça qui crée une émulation en moi. Et c'est vrai que ben, ici, je mets en place un média qui est la radio, qui pour moi a sa place parce qu'elle est intimiste aussi. Beaucoup de gens acceptent de témoigner à la radio dans mon émission sur Radio Campus. Et en télévision, quasiment personne. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être un peu plus de chance. Tout doucement, on ose, c'est possible. Et on a peut-être un peu peur, bien sûr, d'être un peu... taxé, d'être un peu jugé, mais je crois qu'oser dire qui on est, c'est intéressant. Et moi, je rencontre des gens très riches d'expérience qui ont été parfois déçus dans d'anciennes relations et qui se disent, tiens, qu'est-ce qui reste à part devenir célibataire ben, il reste peut-être la vie, quoi. Et oser rester dans des amitiés, parce que je crois que dans la langue française, on a le mot amour, on a le mot amitié. On a très peu de mots entre les deux. Les Esquimaux, pour définir le blanc, je crois qu'ils ont 35 mots. Nous, tout est blanc. Ok. Ben ici, au niveau de l'amour, j'ai envie de dire qu'il faut réinventer. Hein. On parle de compersion, qui est un mot qui exprime aussi l'inverse, la jalousie. Voilà, c'est des mots qu'il faut peut-être oser dire tout doucement.
Est-ce que vous avez des objectifs précis à travers ce mouvement? Je pense par exemple, est-ce que vous souhaitez militer pour que l'on dépénalise la polygamie en Belgique?
Moi, j'ai l'impression que ça se fera un peu tout seul. Je n'ai pas cette prétention d'être le Tintin du polyamour. Quand je lis de nouveau, je fais référence à un livre, mais Jacques Attali parle de 2050, qui serait une date, selon lui, où il y aura une sorte de mouvement assez présent qui fera que petit à petit, ça s'imposera comme étant, tiens, ben, dans le fond, il y a des gens qui pensent un peu autrement et on va peut-être un peu adapter la loi. Moi, j'ai confiance à ce niveau-là, mais je ne serai peut-être pas celui qui sera demain dans la rue avec des drapeaux. Moi, je me fais surtout plaisir, j'ouvre la parole un peu à ce qui se passe autour et on revendique doucement, oui. Ici, il y a le Festival des Libertés qui a lieu le 23 octobre. Et à 18h, nous sommes invités au Théâtre National à un petit débat avec la Ligue des Familles et une association telle qu'elle, donc, qui milite pour l'homosexualité. Donc petit à petit, tiens, ben, Bruxelles Laïque a entendu que, et il nous invite et on prend la parole. Donc je vois que ça se passe petit à petit et je fais confiance un petit peu à la vie. Et je crois que nous, on propose quelque chose qui m'a l'air ouvert et tolérant. Donc... je pense que ça se fera.
Alors que justement, oui. La polygamie, ce sont de multiples relations dans un sens. Il n'y a pas de réciprocité. Hein.
Mais légaliser la polygamie, est-ce que ce n'est pas aussi la porte ouverte à certaines dérives? On sait que la polygamie est dénoncée par certains milieux, notamment des femmes musulmanes qui subissent la polygamie. Vous avez conscience?
C'est bien ce que je dis. Il n'y a pas de réciprocité.
D'accord.
Polygamie, c'est en plus, généralement, dans le cas de l'islam, c'est bien le sens un homme, plusieurs femmes. Pas une femme, plusieurs hommes.
En France, il y a eu un grand débat. On a durci le ton vraiment à l'égard de la polygamie. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous?
Mais je ne me suis pas trop posé la question. Moi, oui, il y a des lois et je crois qu'elles sont nécessaires. Donc, je ne vais pas trop me positionner là-dessus. Moi, je pense qu'en dehors des lois, et c'est valable pour tout, quand on est dans une entreprise, il y a un règlement. Tout le monde va voir le règlement pour savoir un tas de choses parce que ça fait gagner du temps et qu'on peut s'y référer en cas de problème. Et je pense que des couples, par exemple, qui divorcent à l'amiable, ben, ils n'ont pas besoin d'avocat. Et je sais qu'être avocat, le fonds de commerce de beaucoup d'avocats, c'est les divorces. Bon, c'est une réalité. Alors, est-ce qu'il faut encore que les gens passent tout le temps devant des avocats? Je pense qu'il y a eu des lois qui se sont simplifiées il y a quelques années au niveau des divorces. Moi, j'ai trouvé que c'était une avancée, par exemple. Alors, en termes de contrat de mariage devant des notaires, Je connais des gens qui ont acheté une maison à Troyes et qui n'y vivent pas à Troyes. C'est simplement un investissement pour l'avenir, pour ceci, cela. Donc, je crois qu'il faut dépasser le couple, la famille, la maison, les vacances, le petit chien, la piscine. Voilà, donc au-delà de ça, je n'ai pas trop d'avis précis, mais je fais confiance.
En Belgique, on ne va pas trop dans ce sens-là, puisque quand on a voté la cohabitation légale, on a exclu le trio.
Oui, alors ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir le Pax. Moi, je connais des polyamoureux en France qui se sont paxés.
À trois, donc.
Non, ils sont dans des relations multiples, mais ils se sont paxés qu'à deux. Pourquoi ? Parce que ça permettait à l'un d'avoir une couverture de sécurité sociale et à l'autre à déduire des impôts parce qu'ils vivent en partie à deux. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'un inspecteur des impôts, il veut savoir qui habite à telle adresse pour taxer deux, trois personnes ou quatre. Mais je crois que ça va être plus compliqué pour lui dans les jours qui viennent, les années qui viennent, et qu'il y a déjà une certaine jeunesse qui, par le coût des loyers, est obligée de vivre en colocation, parfois accepter d'aménager un grenier dans une maison, de transformer une chambre et de vivre un peu dans une promiscuité un peu plus grande, qui peut-être favorise aussi, pour plusieurs années à venir, d'autres façons que tout de suite s'installer dans un appartement. Et ça favorise peut-être aussi, où on voit le mouvement couchsurfing, hein, qui est donc l'échange des appartements au niveau mondial, où des gens, ben, heureusement qu'il y a ce système, parce qu'ils peuvent voyager et que c'est pas cher, et qu'on accepte d'accepter quelqu'un chez lui qu'on ne connaît pas, qu'on a juste vu sur Internet, et qui a une... Je dis pas qu'il y a peut-être pas des problèmes parfois, mais moi j'entends dire qu'il y a une certaine jeunesse qui s'y plaît. J'entends des gens qui peuvent voyager à un mois grâce à ça, dans une dynamique d'échange, et de se dire, faisons un peu confiance aussi à la nature humaine, quoi.
Monsieur, vous
voulez... Chaque relation est différente, mais une relation, ce n'est pas de l'administratif. Hein. Ça évolue, ça change.
Donc peu importe que l'on puisse faire de la cohabitation légale à trois ou pas, alors finalement.
Ah, bien sûr.
Eh bien, merci Jean d'être venu, et à la RTBF aussi. J'espère que ça pourra éclairer un petit peu aussi l'image que l'on peut peut-être donner à l'extérieur. Et puis je fais un dernier petit rappel sur le 23 octobre au Festival des Libertés. On aura de nouveau un peu droit à la parole au Théâtre National, donc un petit lieu un peu confiné, et où le public est invité et peut aussi réagir et nous interpeller. Voilà, à bientôt.
Musique qui illustre cette entrevue sont Ceste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, Invisible Walls et Habitual Ritual du groupe Revolution Void. Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels en Belgique, les dates de rencontres Polycafé, ainsi que la possibilité de réécoute de l'émission. Je vous rappelle également les différentes diffusions de Polyplaisir des Utopies. Sur Radio Campus, elles ont lieu chaque deuxième mardi du mois à 11h et en rediffusion chaque quatrième jeudi à 16h. Tout cela en fréquence modulée 92,1 MHz à Bruxelles. Je retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs des Utopies.